écoutez tous les samedis à 13h sur Radio G 101.5 FM. Chroniques, reportages, interviews, expériences radiophoniques. Et retrouvez toutes les émissions en podcast sur le site internet labodessavoir.fr.
Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de votre dose hebdomadaire de science pour réveiller vos synapses. Il en tombe une toutes les 30 minutes partout dans le monde, des météorites. Ces petits cailloux de l'espace, souvent pas plus gros qu'une orange, sont une source d'informations inestimables sur l'histoire de notre univers. Mais comment lire les mystères contenus dans ces roches extraterrestres? Où a-t-on le plus de chances de trouver des météorites? Et est-ce qu'il est encore possible de les voir tomber du ciel? Cette émission a été permise par le Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes. Vous êtes bien à l'écoute du Labo des Savoirs pour une heure de science consacrée à ces bolides de l'espace. Notre invité du jour s'appelle Jérôme Gatacheka, il est directeur de recherche CNRS au Centre européen de recherche et d'enseignement des géosciences de l'environnement à Aix-en-Provence. Il travaille avec les météorites depuis bientôt 20 ans. À l'occasion d'une conférence publique donnée au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes, appelée « Météorites entre le désert d'Atacama et l'Antarctique », nous avons pu lui poser quelques questions sur ses travaux en préambule de sa conférence. Ensemble, nous parlerons des précieuses informations qui sont enfermées au cœur de ces cailloux spatiaux, d'explorations scientifiques d'ampleur pour aller les récolter, mais aussi d'un projet de science participative qui se développe en France et en Europe pour observer le ciel et retrouver peut-être les météorites qui tombent chez nous. Bonne écoute au Labo des Savoirs.
Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs.
Merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS au Centre européen de recherche et d'enseignement des géosciences de l'environnement à Aix-en-Provence. Alors, quand on parle de météorites ou d'astéroïdes, on pense collision avec la Terre, fin du monde, extinction des dinosaures. Enfin, c'est toujours assez anxiogène. Vous, vous étudiez les météorites depuis plus de 15 ans. Déjà, c'est quoi une météorite en vrai et est-ce que c'est si inquiétant que ça?
Alors, une météorite, c'est tout simplement une pierre extraterrestre qui atteint la surface terrestre. Et justement, si elle atteint la surface terrestre, c'est qu'elle a pu être ralentie. Lorsqu'elle vient percuter la Terre, elle a été ralentie par l'atmosphère et donc elle arrive finalement assez doucement, autour de 300 km/h à la surface. Ça fait que ça ne représente pas du tout un danger, contrairement effectivement à des gros astéroïdes qui peuvent entrer en collision avec la Terre, qui ne sont pas ralentis par l'atmosphère et qui vont créer des cratères d'impact. Mais quand on a une météorite, justement, on n'a pas de cratère, en général, parce que c'est des objets beaucoup plus petits, qui sont ralentis efficacement par l'atmosphère et ce ralentissement permet justement de retrouver un caillou à la fin. Et c'est ça qui est intéressant scientifiquement aussi, quoi.
Donc une météorite, dans sa définition, c'est vraiment un caillou qui vient de l'espace.
Voilà, il devient météorite au moment où il touche le sol, ce caillou. Quand il est dans l'espace, il a un autre nom, on peut appeler ça un météoroïde, qui serait le nom savant. Voilà, il devient météorite quand il atteint la surface, et s'il est détruit lors de l'entrée atmosphérique ou lors de la collision avec la Terre pour former un cratère d'impact, il n'y a pas de météorite. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de caillou pour le géologue pour travailler. Voilà, il n'y a rien d'anxiogène dans les météorites, elles sont pas radioactives, elles contiennent pas de substances dangereuses. Ou contiennent des minéraux qui finalement on trouve dans les roches terrestres aussi, une olivine, pyroxène, du fer, à l'état métallique, de la matière organique aussi. Mais rien de dangereux, et au contraire, en fait, ça participe quelque part à la formation de la Terre. Hein. La Terre s'est formée par accrétion de matériaux qui venaient de l'espace, et donc on peut voir aussi la chute des météorites comme la terminaison de cette accrétion de la Terre, hein, qui se continue de nos jours, bon, à une vitesse réduite, hein, puisque c'est à peu près 60 000 tonnes de matériel extraterrestre qui s'accrète à la Terre chaque année.
60 000 tonnes chaque année?
Ouais. Donc bon, ça paraît beaucoup, mais en fait, c'est une masse ridicule par rapport à la masse de la Terre. Mais disons que ça continue à faire grossir la Terre.
Donc effectivement, donc vous étudiez les météorites pour étudier peut-être aussi ça. Qu'est-ce qu'on trouve dans l'étude des météorites? Qu'est-ce que ça nous apprend, ces cailloux de l'espace?
Alors, ils nous apprennent beaucoup de choses. D'abord, ils me permettent de faire de la... Enfin, moi, c'est mon approche, c'est plutôt de faire de la géologie sur les corps qui sont sur les corps extraterrestres. Ça peut être des météorites qui viennent de la Lune, on va en apprendre plus sur la Lune. Des météorites martiennes, on va en apprendre plus sur la composition de Mars et sur l'histoire de Mars. Et après, en fait, la plupart des météorites viennent de la ceinture d'astéroïdes. Donc, on va apprendre aussi quand, comment se sont formés ces astéroïdes, quelle a été leur activité géologique ensuite. Donc ça, disons que c'est une partie plus géologique et qui est celle qui me concerne. Après, il y a aussi les chercheurs qui travaillent sur ce qui se passe encore un petit peu avant, c'est-à-dire la formation même du système solaire, vraiment les premiers instants du système solaire. Comment se forment les premiers solides? Quel moment ça s'est fait? Parce que c'est grâce aux météorites qu'on connaît l'âge du système solaire, l'âge de formation du système solaire, qui est à 4568 millions d'années. On a un âge très précis. Ça, on le sait parce qu'on a daté certains éléments dans les météorites qui se sont formés les premières. En premier. Donc voilà, on a aussi des renseignements sur les conditions physiques et chimiques qui régnaient dans la nébuleuse solaire, hein, quand ce nuage de gaz finalement s'est effondré pour former le Soleil et le disque de poussière qui était autour du Soleil, qui a donné naissance aux planètes, aux astéroïdes.
Ça veut dire qu'on arrive à remonter dans le temps, dans l'histoire du système solaire, juste en regardant la composition de ces pierres, et on arrive à aller à un moment où il n'y avait pas encore de planètes?
Tout à fait. Il y a un grand nombre de météorites qu'on appelle les chondrites, qui sont des petits corps en fait, hein, qui sont restés assez petits pour pas fondre et justement qui ont préservé cette histoire très ancienne. L'histoire du système solaire, c'est intéressant. Donc je vous ai dit, ça commence à 4568 millions d'années de manière un peu conventionnelle, hein, c'est l'âge de certains éléments dans les chondrites qui se sont condensés à ce moment-là, des phases qui condensent à très haute température. Et à partir de là, ça va très très vite. Hein. En une dizaine de millions d'années, on a formé déjà quasiment les planètes telles qu'on la connaît actuellement. Donc l'histoire du système solaire, ça va très vite au début, et après depuis il se passe beaucoup moins de choses, hein. Les planètes sont formées, bon, il y a des collisions, les planètes évoluent, elles ont une vie, en particulier la Terre, une vie intense. Mais disons, la structuration du système solaire, ça se fait très vite, très tôt, à partir de 4568 millions d'années. Et cette histoire-là, on la retrouve dans les météorites, et on peut vraiment dater assez précisément la formation des différents astéroïdes, quelle température ils ont chauffé, les fluides qui ont circulé sur ces astéroïdes, parce qu'il y avait de l'eau, il y avait de la glace aussi au début qui a crété avec quand ces corps se sont formés, qui a fondu, donc il y a de l'eau qui a circulé. On peut vraiment remonter aux conditions température, quel était l'environnement physico-chimique dans ce disque de poussière qui entourait le Soleil qui était en train de se former. Donc c'est intéressant pour la chronologie, c'est intéressant aussi pour comprendre finalement comment se forme un système solaire, tout simplement. Et ça, c'est vrai, c'est enregistré dans les météorites, alors que sur Terre, on a perdu complètement cette information. Parce que la Terre est une planète géologiquement active, toute l'histoire primitive a été effacée parce qu'on a la Terre a fondu entièrement. C'est une planète différenciée avec un noyau, un manteau, une croûte. Et puis un recyclage permanent des roches qui fait qu'on n'a pas des roches qui ont cet âge supérieur à 4,5 milliards d'années.
Oui, les roches terrestres sont pas assez vieilles, mais donc avec les roches peut-être de la Lune, de Mars ou des astéroïdes, on arrive donc à reconstituer l'histoire de là d'où elles viennent.
Alors, les roches de Mars, elles ne sont pas si vieilles que ça non plus, en fait. C'est un peu comme la Terre, c'est une grosse planète qui est entièrement fondue. On parle de différenciation, donc elle a un noyau métallique et puis, disons, une croûte de roches magmatiques. Et donc sur Mars, les météorites martiennes, par exemple, elles sont datées la plupart autour de 1-2 milliards d'années, ce qui est assez jeune quand on parle de météorites. Hein. Il faut des corps qui soient assez gros pour être toujours actifs à cet âge-là. Les météorites lunaires, c'est un peu pareil. Ça remonte peut-être à autour de 4 milliards d'années ou autour de 4. Alors, il y a des roches un peu plus jeunes aussi, mais on a aussi perdu la mémoire sur la Lune des premiers instants du système solaire. Pour avoir cette mémoire-là, il faut aller sur des météorites qui viennent de corps plus petits. On parle de météorites primitives, qui sont des astéroïdes non différenciés, qui n'ont pas chauffé assez pour fondre complètement, et qui donc sont vraiment toujours constitués de cette espèce de soupe initiale qui était dans le disque, on parle de disque protoplanétaire ou de nébuleuse solaire, hein, c'est ce qui est autour du Soleil quand le Soleil se forme. Quand le nuage de gaz qui va former le système solaire s'effondre, heureusement, toute la matière ne va pas dans le Soleil, sinon on ne serait pas là pour en parler. Et ce qui reste autour, voilà, c'est ce disque de gaz au début, puis après de la poussière qui va s'agglomérer et former des corps de plus en plus gros. Et les corps qui restent assez petits, disons en dessous de 150, 200 km, ils vont pouvoir finalement préserver toutes ces informations de départ.
Donc c'est ça, les astéroïdes contiennent en eux des informations qui sont vraiment pures du plus loin qu'on puisse aller.
Pures, on aimerait bien, mais en fait, même s'ils sont petits, ils ont quand même eu une vie propre, les astéroïdes, qui est intéressante aussi à étudier. C'est pas... Alors les gens qui veulent vraiment travailler sur les conditions de formation du système solaire, ils voient ça un peu comme des phénomènes parasites. C'est des phénomènes qui sont intéressants aussi. On peut savoir que l'astéroïde, il a chauffé, qu'il y a eu de l'eau, qu'il y a eu des collisions. Enfin, toute la vie de l'astéroïde, elle est aussi enregistrée dans la météorite. Mais effectivement, scientifiquement, les météorites qui sont les plus primitives, c'est-à-dire qui n'ont ni chauffé, qui n'ont pas vu beaucoup d'eau circuler, qui n'ont pas été très choquées, elles sont intéressantes parce que c'est là qu'on va avoir la meilleure information sur le système solaire primitif. Et on a même plus que ça, on a un certain nombre de météorites, donc parmi les plus primitifs, qui contiennent ce qu'on appelle des grains présolaires, qui sont des petits grains. En général, ils font moins d'un micron. Les plus gros font quelques dizaines de microns, qui sont des grains qui ont été formés avant le système solaire, qui sont hérités des étoiles qui étaient autour du système solaire. Voilà, donc là, on a même la mémoire des étoiles qui ont disparu maintenant et qui entouraient ce nuage de gaz qui a donné naissance au système solaire et dont l'explosion, on pense, pourrait avoir contribué à faire en sorte que ce nuage de gaz s'effondre sur lui-même parce que voilà, il est par une zone de choc. Et donc, on a dans ces grains présolaires, alors c'est pas grand-chose, hein, c'est des petits diamants, des petits grains de carbure, de silicium, enfin, il y a toute une typologie, il y a des gens qui travaillent que sur ça. C'est une chose toute petite qu'on récupère, en fait, on prend une météorite, on la dissout entièrement et le résidu le plus résistant est formé de ces grains présolaires. La plupart sont datés à quelques, peut-être 100, 200 millions plus vieux que le système solaire, mais il y en a certains qui ont jusqu'à 7 milliards d'années. Donc, qui sont 2 milliards d'années plus vieux que notre système solaire. Donc, on a même une mémoire qui remonte au-delà de la naissance de notre système solaire. On dit souvent que les chondrites, enfin, ces météorites primitives, c'est les objets les plus vieux du système solaire. Et c'est vrai, mais elles contiennent elles-mêmes des choses qui sont encore plus vieilles et qui sont l'héritage finalement des autres soleils. C'est de la poussière résidue de ces soleils, enfin, ces étoiles précédentes qui ont été incorporées dans notre système solaire.
Alors comment on fait parler ces pierres? Parce que moi quand je vois des pierres, des météorites, on en a vu tout à l'heure, ça ressemble pour moi à des gros cailloux. Alors comment on arrive à tirer toutes ces informations d'une roche?
Ça ressemble à des cailloux, effectivement ce sont des cailloux les météorites, donc c'est tout va bien jusque là. Et ensuite c'est comme en géologie, on a différentes clés de lecture pour lire ces cailloux, même si on prend des cailloux terrestres, voilà, les géologues voient ça plutôt comme un livre dans lequel on va lire l'histoire de la Terre. Pour les météorites c'est pareil, c'est des livres qui sont un peu différents parce que le type de roche est différent. Chacun avec sa spécialité va avoir sa clé de lecture. Pour certains c'est les analyses chimiques, pour certains c'est la géochimie isotopique, d'aller voir les différents isotopes de l'oxygène par exemple, voilà, il y a beaucoup de géochimie isotopique sur les météorites. Moi ma clé de lecture c'est plutôt les champs magnétiques qui sont enregistrés dans ces météorites, qui permettent donc de remonter à l'environnement magnétique dans lequel ces roches se sont formées. Pour certains, c'est plus la pétrographie, la texture des roches, pour voir à quel point elles ont été choquées. Et après, dans les météorites, on trouve de tout. On trouve des roches volcaniques, on trouve des basaltes, comme similaires aux basaltes terrestres. Donc là, c'est les compétences requises et l'expertise, c'est les gens qui connaissent les roches volcaniques, en fait. Donc c'est de la pétrographie, géochimie. Les chondrites, donc, qui sont ces roches qui viennent des petits astéroïdes, finalement, c'est des roches sédimentaires, hein, quelque part. C'est des roches qui se sont formées dans l'espace par agglomération. Donc voilà, chacun vient avec sa spécialité apporter sa contribution, comme pour la géologie, comme pour l'étude des roches terrestres en fait. C'est de la géologie extraterrestre en fait, l'étude des météorites.
Le son des sciences au Labo des Savoirs.
Un peu plus tôt, Jérôme Gattacheca a rencontré Denise Demarque, responsable des collections Sciences de la Terre et de l'Univers au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes.
Là, il y a un petit morceau qui est une météorite, en fait. Donc, ça vaut peut-être le coup de la remettre dans la boîte des météorites avant qu'elle parte à la poubelle.
Tous deux se sont penchés sur des boîtes remplies de cailloux et d'étiquettes, les collections de météorites du Muséum.
Donc celle-là, à mon avis, c'est une météorite, donc
je vais le mettre.
Ça, effectivement, non. Après, on peut faire le jeu inverse, voir si dans cette boîte, il y en a qui ne sont pas des météorites. Mais
Vous les reconnaissez à l'œil nu très facilement, les météorites et les non-météorites?
Alors, très facilement, il y en a certaines, oui, comme celle-là, où on voit qu'elle a une croûte de fusion. Puis elle est dense et elle est un peu rouillée, donc un truc comme ça, il n'y a pas de doute. La forme aussi avec
ces empreintes un peu là qu'on appelle les, qui rappellent des empreintes de pouces. Ça, ça se fait lorsque la pierre entre dans l'atmosphère. Ça aussi, c'est assez évident parce qu'il y a une croûte de fusion. Et pareil, une forme avec des faces assez, assez planes, mais des arêtes un peu émoussées, comme ça.
Les pierres qui passent dans les mains des deux hommes ne sont pas exposées au public. Elles doivent encore être triées et identifiées.
Elles sont un peu différentes. Mais elles n'ont pas, pas encore été étudiées. Quoi. Elles n'ont pas été coupées, donc on ne sait pas encore ce qu'elles ont dans le ventre. Est-ce que c'est des choses rares? Est-ce que c'est des choses banales, finalement? Est-ce que c'est intéressant scientifiquement ou pas? Ça, on peut pas... On ne sait pas avant d'avoir coupé, quoi.
Le muséum a récemment fait l'acquisition d'une nouvelle pièce impressionnante, une météorite de la chute dite de Saint-Aubin. Denis Demarque l'a décrit pour nous.
Alors, c'est une météorite qu'on appelle une météorite métallique. Donc, c'est un alliage de fer et de nickel. Donc, c'est une densité très, très, très importante. Et puis, alors là, elle est très anguleuse, etc. C'est parce qu'en fait, elle a une histoire terrestre assez longue. Elle s'est oxydée. Hein. Elle a eu le temps de s'oxyder. Donc voilà, c'est ce qui fait qu'elle a toutes ses formes un peu, voilà, été nettoyées. Donc nettoyée, stabilisée aussi. Elle a eu des traitements pour pouvoir. Parce que, bah, comme c'est du fer, dès que c'est en contact de l'oxygène, ça s'oxyde, ça rouille. Donc. Elle a été stabilisée, c'est pour ça qu'elle a cette patine un peu noire qui fait penser à une croûte de fusion, mais il n'y a pas du tout là de croûte de fusion, il n'y en a plus disons.
Elle fait quelle taille? Parce qu'elle a l'air énorme, il y en a des aussi grosses?
Donc là c'est une trouvaille, hein. C'est pas une, on l'a pas vu, on distingue dans les météorites les chutes des trouvailles, les chutes on les voit tomber et on essaie d'aller les récupérer. Et du coup il y a une mission qui s'est faite pour pouvoir essayer d'aller récupérer d'autres morceaux, de retrouver d'autres morceaux de cette météorite. Et ça a été un vrai succès, hein, parce que donc je sais pas précisément combien il y a de, parce que bon le chiffre n'est pas encore publié, hein, mais c'est près de 8 tonnes au total, 8 tonnes de cette météorite. Donc ça fait d'elle de toute façon la plus grosse chute française. Voilà, donc Saint-Aubin, la plus grosse chute en France. Et la masse principale, elle a été découverte, elle fait 477 kilos,
une pièce rare et monumentale. Retour avec l'interview de Jérôme Gatacheka avec une nouvelle question. Alors, vous avez parlé de champ magnétique. Avant de revenir un petit peu sur cette notion, comment on peut étudier le champ magnétique d'une roche, est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est très rapidement?
C'est toujours un petit peu compliqué de parler de champ magnétique parce que c'est invisible. On a un peu du mal à percevoir ce que c'est. Bon, on a l'habitude des champs magnétiques créés par des aimants. Disons que c'est un champ de force dans lequel on baigne. Hein. Le champ magnétique sur Terre, il est créé par le noyau terrestre, la partie liquide qui bouge et qui est conductrice, c'est noyau de fer nickel, et donc on a des mouvements finalement de matériel conducteur qui vont créer un champ magnétique. Mais il y a plein de sources de champs magnétiques en fait. Je vous ai dit que c'était créé par des aimants, mais en fait les roches elles-mêmes, elles se comportent aussi comme des petits aimants faibles, donc on a à la surface de la Terre des zones qui sont plus magnétiques parce que les roches contiennent plus de minéraux qui sont magnétiques. C'est pareil sur les autres planètes, donc on a toutes ces contributions. On a des champs magnétiques qui étaient créés dans le système solaire jeune par la nébuleuse solaire. Donc la nébuleuse solaire, c'était ce gaz chaud ionisé qui bougeait. Donc on a des circulations de matériaux conducteurs électriquement conducteurs qui vont créer aussi des champs magnétiques. Donc bon, il y a des champs magnétiques partout dans l'univers, plus ou moins forts, plus ou moins stables dans le temps. Et quand une roche se forme, elle va finalement enregistrer ce champ magnétique. Alors là aussi, c'est un peu compliqué à expliquer de manière imagée, mais on peut voir la roche un petit peu comme une bande magnétique. Alors ça s'utilise peut-être plus beaucoup maintenant, mais voilà, comme une bande magnétique qui enregistre un son qui serait ce champ magnétique. Et après, il y a des gens comme moi qu'on appelle des palomagnéticiens qui savent lire cette bande magnétique, donc qui ont les instruments pour le faire et qui savent écouter cette musique et comprendre finalement pour remonter au son qui a été enregistré, donc qui serait ce champ magnétique ancien. Et à partir de là, on peut dire, je prends l'exemple qui est peut-être le plus simple, on prend des roches lunaires, on fait ce travail-là de paléomagnétisme, on peut voir l'évolution du champ magnétique de la Lune au cours du temps. On peut voir que la Lune avait une dynamo par le passé, donc elle aussi un noyau liquide animé de mouvements qui crée un champ magnétique à l'échelle de la Lune. Un champ magnétique qui n'existe plus aujourd'hui, hein, parce que le noyau, soit il est complètement à l'arrêt, soit il est animé de mouvements, mais trop faible pour entretenir ce champ magnétique. Et pareil pour Mars, on peut reconstituer finalement l'histoire du noyau de la Lune ou de Mars à partir de ces enregistrements magnétiques. Dans d'autres types de météorites, on va pouvoir mesurer les champs magnétiques qui étaient présents dans la nébuleuse solaire. Ça contribue à ça, à la connaissance des conditions physiques dans les premiers instants du système solaire. Quelle était l'intensité des champs magnétiques? Comment ils ont évolué avec le temps? Comment ils évoluaient par rapport à la distance au Soleil aussi? Voilà, c'est de reconstruire tout cet environnement physique qui était présent dans le disque protoplanétaire de la nébuleuse solaire. Et ça, c'est vraiment le seul moyen d'accéder, c'est les météorites, parce qu'on peut essayer de faire des mesures à distance sur des disques protoplanétaires autour d'étoiles en cours de formation. On n'a pas la finesse qu'on peut avoir en travaillant sur des météorites. Il y a des mesures astronomiques qui permettent de voir qu'il y a des champs magnétiques dans ces disques-là, mais on n'a pas la résolution spatiale, on n'a pas l'évolution temporelle. Et donc, vraiment, les météorites apportent quelque chose de beaucoup plus précis.
Oui, elles ont vraiment imprimé le champ magnétique d'où elles proviennent, et donc ça permet d'étudier plus directement.
Voilà, elles l'ont enregistré, elles ont cette mémoire-là qu'on peut lire.
Alors d'ailleurs, des roches lunaires, je crois que vous en avez 35 grammes dans votre laboratoire, c'est ça?
Oui, un peu plus, je ne sais pas exactement, on en a plusieurs. On doit avoir une dizaine de météorites lunaires, puisque c'est des échantillons que je reçois en fait de chercheurs de météorites ou de collectionneurs de météorites qui m'envoient des pierres pour les classer, tout simplement pour dire de quel type de météorite il s'agit, et pour les référencer. Les météorites, elles sont référencées dans une base de données qui est gérée par une société savante qui s'appelle la Meteoritical Society. Donc voilà, quand on a une nouvelle météorite, un laboratoire fait des analyses, soumet ses analyses à cette Meteoritical Society qui valide ou pas et qui donne un nom à la météorite, ce qui permet d'avoir une traçabilité. Et le laboratoire académique qui fait les analyses va garder un morceau de la météorite de départ, 20 grammes minimum ou moins si la pierre est plus petite. Bon, enfin, il y a des règles strictes là-dessus. Et donc, ça permet pour le laboratoire comme le mien de faire rentrer du matériel intéressant. Ça peut être des météorites lunaires, des météorites martiennes, voilà, qui devient un matériel d'étude aussi. Donc, voilà. Nous, on a une grosse collection dans mon laboratoire, une collection de travail qui n'est pas exposée. C'est vraiment une collection de travail de météorites. On doit avoir 3 ou 4 000 météorites.
Et alors, il y a donc ce moyen de les récupérer par les gens qui viennent les authentifier, mais aussi, parfois, vous allez les récupérer vous-même, ces météorites, puisque vous partez en expédition à la chasse aux météorites. Je ne sais pas si on peut dire que vous êtes chasseur de météorites.
Moi, je dirais cueilleur, plutôt, puisqu'elles ne bougent pas, donc on ne leur court pas après. Elles sont posées par terre, elles attendent, donc c'est plutôt de la cueillette que de la chasse.
Cueilleur de météorites, c'est aussi très poétique, je trouve. Et vous avez rejoint une expédition de grande ampleur en décembre 2017, et donc vers l'Antarctique, une expédition qui était organisée par vos collègues italiens, avec qui vous avez donc cueilli des météorites pendant plusieurs mois. Alors, quand on parle de voyage d'exploration scientifique, moi, ça me ramène au XVIIe et au XVIIIe siècle, quand on allait à la découverte du monde, qu'on faisait de la cartographie, des descriptions de la faune, de la flore, qu'on collectait plein de choses pour les ramener au muséum. Alors, à l'époque, il y avait aussi des raisons politiques, diplomatiques et commerciales. Aujourd'hui, des grandes expéditions scientifiques comme ça, est-ce qu'il y en a encore beaucoup? Est-ce que c'est cher à faire? Où on en est de ces grandes expéditions-là?
Alors, il y en a toujours, hein, puisqu'il reste des choses à trouver. Il y a toujours parfois une petite connotation politique. C'est le cas pour l'Antarctique. Enfin, il est de bon ton pour les grandes puissances de maintenir des bases sur place, qui soient idéalement habitées en permanence pour le jour où le traité antarctique sera renégocié. Je crois que c'est bientôt. Pouvoir dire, ben nous, on a une présence permanente à l'Antarctique depuis 50 ans, donc on est plus légitime pour avoir notre mot à dire. C'est pour ça que les Chinois ont fait 3 bases récemment, là, je crois, 2 ou 3 bases qui sont habitées en permanence, pour pouvoir dire aussi, nous, on fait partie du petit club des gens qui sont à l'Antarctique de manière permanente. Donc il y a un petit peu ce côté-là quand même. Moi, j'étais parti avec une expédition italienne, effectivement. Les Italiens ont une base alors, qui n'est pas habitée de manière permanente, celle-ci qui est sur la côte, mais ils ont des gens en permanence à la base Concordia, avec les Français. Donc ils ont aussi un pied bien mis à l'Antarctique. Et ils ont un programme antarctique qui est assez développé par rapport à la taille du pays et ses ambitions scientifiques. Hein, avec l'été, la base, là, il doit y avoir 80-100 personnes parfois, pendant la période la plus occupée. J'ai eu cette possibilité de partir avec eux pour chercher des météorites. Alors pourquoi les Italiens cherchent des météorites et pas les Français, par exemple? Ça tient tout simplement à la position des bases par rapport aux endroits où il y a des météorites, parce qu'il n'y en a pas partout en Antarctique. On peut revenir après, mais elles sont dans certains contextes géographiques particuliers. Il se trouve que la base française principale du Mont-Durville, ben, pas de chance, elle est loin de tous ces contextes-là. Et donc, on ne peut pas aller de manière pratique chercher des météorites depuis la base française. Par contre, depuis la base italienne, c'est beaucoup plus près, c'est beaucoup plus simple, parce qu'effectivement il y a une grosse logistique derrière, ça coûte très cher. Voilà, heureusement il y a cette quelque part derrière, il y a aussi une petite motivation politique qui fait qu'il y a de l'argent quand même qui est là pour aller faire des choses comme chercher des météorites. S'il n'y avait pas cette motivation politique, je ne suis pas sûr que les États donneraient l'argent pour faire ça. Pour occuper le territoire, j'ai eu un peu le même genre d'expérience dans le nord du Canada. Le Canada finance relativement facilement des expéditions loin dans l'Arctique pour pouvoir dire qui sont des zones totalement inhabitées, pour pouvoir dire face aux Russes, ben nous on a des gens qui sont là qui travaillent, c'est vraiment chez nous, c'est pas des zones qui sont à conquérir.
Ouais, des motivations politiques, mais
ouais,
qui
il faut quand même occuper le territoire, et voilà, ça aide.
Ça justifie les expéditions scientifiques.
Tout à fait, mais donc ça permet de les financer, il y a un petit flux financier qui... Et puis surtout, on profite de la logistique, voilà, la base, elle est là-bas, elle tourne, indépendamment de nos affaires de météorites, et sans ça, c'est très compliqué, sans ça, on revient un peu à des expéditions du genre... 17e, 18e siècle, enfin pour l'Antarctique, même 19e, début 20e, où c'était de la vraie aventure dangereuse, alors que là on travaille pas en pantoufle, mais on travaille dans des conditions de sécurité tout à fait modernes et sans risque.
Justement, je me demandais, vous êtes allé en Antarctique, vous êtes allé au Chili, vous parliez tout à l'heure du Canada, j'ai cru comprendre que oui, vous avez quand même visité pas mal de régions du monde où vous étiez susceptible de trouver des météorites. Comment on prépare ces expéditions? Est-ce que c'est dangereux ou vous le dites, c'est finalement, ça va, ça s'organise plus facilement de nos jours?
Non, il n'y a pas de danger, y a une préparation qui fait qu'il n'y a pas de danger. En Antarctique, l'avantage, c'est que cette préparation, elle est assurée par là, en l'occurrence, elle était assurée par le programme Antarctique italien. Donc, ils ont des guides de haute montagne. Nous, sur le terrain, on avait un guide avec nous. Ils ont une logistique avec des pilotes d'hélicoptères. La base, elle tourne, elle est chauffée. La base elle-même, celle qui est sur la côte. Donc, tout cet aspect sécurité est assuré à grande échelle par le programme Antarctique italien, ce qui me concerne. Et c'est, bon, les Français ont leur programme Antarctique aussi. Voilà. Donc, là, de ce côté-là, moi, j'ai pas eu grand-chose à organiser, par quelques formations et visites médicales pour s'assurer que ça irait bien une fois sur place. Quand on fait... À la rigueur, c'est peut-être plus risqué, mais c'est pas vraiment risqué non plus. Quand on organise, nous, des missions un peu plus simples, par exemple au Chili, où c'est nous qui organisons tout, bon, là, on essaie de faire au mieux, mais c'est pas beaucoup plus risqué que de partir faire un trek ou une randonnée de quelques jours. Voilà, c'est pas des déserts qui sont inaccessibles, donc... Moi, ce qui m'attire, c'est pas du tout le goût du risque, et encore moins le risque pour les autres que j'amène avec moi. Donc, on essaie de faire des choses qui sont bien balisées, quoi. Mais c'est sûr qu'il y a ce petit goût d'aventure, hein, qui fait partie du plaisir de l'activité, de partir dans le désert, d'organiser un camp pour en autonomie, pour une semaine. Et puis, de tout simplement de découvrir, de partir dans des endroits où... Enfin, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est de partir sans savoir où je vais exactement. On part dans le désert, on se dit, ça a l'air bien par là, on va aller chercher là, on va déplacer le camp. Voilà, une espèce de nomadisme qui est agréable, qui permet de découvrir des choses, effectivement, pas forcément ce qu'on cherche. Il y a toujours un peu ce côté, on va aller voir, bon, on cherche des météorites, mais si on trouve autre chose, pourquoi pas. Il y a, par exemple, tout à l'heure, on regardait là ce qu'on appelle des impactites, qui sont des petits morceaux de verre qui correspondent à de la roche terrestre fondue par un impact d'astéroïde à la surface de la Terre. Donc un cratère qui s'est formé, qui a éjecté de la roche terrestre fondue. Et donc voilà, à force de se promener au Chili à chercher des météorites, on a fini par trouver aussi un champ de ces verres d'impact. Il y en a assez peu qui sont connus sur Terre, une petite dizaine, et à le caractériser. Donc voilà, donc on fait aussi des découvertes fortuites, simplement en passant du temps dehors et en regardant ce qu'on a sous les pieds, quoi.
Oui, en étant vraiment sur le terrain.
Voilà.
C'était Solar Project avec leur titre « Donnez-moi ». La science, toutes les sciences, au Labo des Savoirs. Et nous sommes de retour avec Jérôme Gatacheka qui étudie les météorites et leurs secrets depuis bientôt 20 ans.
Comment on choisit les endroits où on va cueillir des météorites dans le monde ? Est-ce qu'il y a des endroits plus favorables à la cueillette de météorites ?
Ouais, alors c'est une bonne question. Alors il en tombe partout pareil, autant des météorites, hein, autant à Nantes que dans le désert d'Atacama. Après, c'est des roches qui se conservent assez mal à la surface de la Terre, puisqu'elles ne sont pas dans leur milieu naturel, disons. Elles contiennent souvent du fer métallique qui demande qu'à rouiller. Voilà, donc une météorite qui tombe dans la région nantaise, elle a une durée de vie qui va être de quelques dizaines d'années, elle va rapidement être enfouie, emportée par la pluie, etc. Alors que dans les déserts qui sont secs, par définition, elles vont se conserver beaucoup plus longtemps. Donc la réponse à votre question de où est-ce qu'il faut aller pour trouver des météorites, comment on choisit les endroits, c'est d'aller dans les endroits qui sont secs et qui ont des surfaces qui par conséquent vont être stables, où il n'y a pas d'érosion qui va recycler la surface, grosso modo. Donc tous les déserts chauds sont relativement favorables. L'Antarctique, c'est autre chose, je vais y revenir. Et alors après, dans les déserts chauds, il y en a beaucoup. Lesquels choisir ? Alors, il ne faut pas que ce soit des déserts sableux, puisque sinon les météorites vont être sous le sable. En fait, les surfaces sableuses sont très jeunes, elles sont perpétuellement remaniées. Donc on ne va pas aller chercher des météorites dans des dunes de sable, puisqu'elles sont sous les... Il en tombe partout autant qu'ailleurs, mais elles sont sous le sable, donc on ne les voit pas. Donc c'est vraiment des déserts pierreux qu'il faut, où il y a assez de vent pour que le sable soit évacué ailleurs. Et après, plus le désert est vieux, plus les météorites se seront accumulées au cours du temps. Et le désert le plus vieux de la planète, c'est le désert d'Atacama, qui est sec et chaud et sec depuis probablement 20 millions d'années, pour des raisons tectoniques, en fait, de formation de la cordillère des Andes. Et de... Voilà, donc c'est le désert le plus vieux de la planète. Hein. Le Sahara, par exemple, c'est un désert qui est relativement jeune. Il y a 15 000 ans, la dernière période glaciaire, c'était, il y avait des crocodiles dans le Sahara, des rivières, c'était habité. On trouve beaucoup de pierres façonnées par l'homme. Hein, donc c'était pas du tout un milieu qui était favorable à la préservation des météorites. Donc le Sahara, finalement, il a commencé à accumuler des météorites sur les 15-20 derniers milliers d'années, alors qu'en Atacama, c'est plusieurs millions d'années. Donc forcément, on en trouve plus là-bas. Et donc c'est ça qu'il faut chercher, des vieux déserts, le plus sec possible. Donc le champion de toute catégorie, c'est le désert d'Atacama.
Et alors qu'en est-il des déserts froids, comme l'Antarctique ?
Alors désert froid. Alors désert froid-chaud, c'est pas forcément bienvenu comme distinction, parce qu'en Atacama, il peut faire très froid la nuit. Et bon, voilà. Donc, mais disons qu'en Antarctique, c'est une situation complètement différente. Les météorites, elles tombent à la surface de la... Donc l'Antarctique, c'est un continent qui est recouvert d'une calotte de glace qui peut faire plusieurs kilomètres d'épaisseur. Et au-dessus de cette glace, on a de la neige, parce qu'il neige pas beaucoup, mais il neige quand même chaque année. Il y a une couche de neige qui tombe. Donc les météorites, elles tombent comme partout ailleurs. Elles vont tomber dans la neige et elles vont être immédiatement recouvertes par de la neige. Donc si on va sur la calotte, on voit pas de météorites parce qu'elles sont sous la neige. Et alors le truc magique, c'est que cette calotte glaciaire, elle s'écoule vers l'extérieur du continent et elle finit sous forme, elle finit sous forme d'iceberg. Et donc il y a ce mouvement qui est le déplacement de la calotte vers la côte. Alors il y a une étape intermédiaire, c'est que donc ces météorites que j'ai oublié de dire, ces météorites donc elles tombent dans la neige, elles sont ensevelies par de la neige et puis ils continuent à neiger. Et finalement cette neige elle se transforme en glace. C'est comme ça que la calotte se forme. Et donc on a ces météorites qui sont dans la glace, donc qui sont a priori perdus pour nous et qui en plus cette calotte se déplace vers la côte et donc qui partent lentement vers l'océan austral et qui finissent par tomber dedans avec les icebergs. Et donc, a priori, c'est pas un système efficace pour récupérer des météorites, à part qu'il y a des chaînes de montagnes en Antarctique qui percent la calotte, qui interrompent le flux de glace. Et donc, quand la glace vient buter contre ces montagnes, on a une chaîne de montagnes qui s'appelle la chaîne transantarctique, la glace, elle est bloquée, donc qu'est-ce qu'elle fait ? Elle essaie de passer par-dessus. Donc il y a un mouvement du flux de glace vers le haut, enfin le flux est perturbé. La glace, elle revient à la surface et on a au pied de ces montagnes des zones de glace où on n'a pas de neige. On a de la glace bleue, ça s'appelle les zones de glace bleue parce qu'elle est bleue effectivement, où la glace est à nu parce qu'elle est en train de remonter. Mais quand elle monte comme ça, elle finit par être érodée par le vent ou sublimée à cause du soleil. Et donc toutes les météorites qui sont contenues dans cette glace, ploup, ploup, elles ressortent à la surface et elles y restent comme des champignons en fait. Et donc les météorites vont arriver à la surface et elles vont y rester pendant un certain temps. Alors si on attend trop longtemps, cette glace elle se déplace, elle va repartir dans le tapis roulant de la glace. Mais voilà, et donc elles s'accumulent vraiment au pied des montagnes dans ces zones de glace bleue. Donc c'est vraiment là qu'il faut aller les chercher. C'est pour ça que je disais, il faut nous on est parti avec les Italiens parce que les Italiens ont une base qui est près des montagnes transantarctiques, près des monts transantarctiques, et donc on a un accès relativement facile à ces zones de glace bleue.
Vous en avez trouvé beaucoup à cet endroit, des météorites, pendant votre expédition?
Alors là on a trouvé un peu plus de 100, je crois qu'on a trouvé 115 météorites. Alors la mission c'était un peu plus de 2 mois, mais après le temps effectif de recherche est beaucoup plus court, entre les jours où il fait pas beau, le voyage, etc. Donc on était 4 personnes, on a trouvé 115 météorites. C'est assez aléatoire, hein. il y a des zones où on peut trouver, voilà, on peut trouver 20 météorites dans une journée, des zones où elles vont être relativement proches les unes des autres. Tout ça, c'est un peu la magie des déplacements de la glace qui fait qu'on va les trouver accumulées. Après, une fois qu'elles sont sur la glace, le vent les déplace aussi, les fait glisser, donc on peut se retrouver accumulées en bordure de ces zones de glace bleue. Donc c'est là que c'est un peu au petit bonheur la chance. On marche et puis on cherche les cailloux noirs sur la glace bleue. Donc visuellement, c'est beaucoup plus facile que dans les déserts chauds où il y a beaucoup de cailloux. Là, grosso modo, tous les cailloux, ils viennent du ciel en Antarctique. Alors, c'est pas aussi simple que ça. Il y a des endroits où il y a aussi des cailloux qui ont été rabotés dans les monts transantarctiques eux-mêmes.
Il y a moins de chances de se tromper, quoi.
Voilà, c'est un peu plus simple. Alors, c'est beaucoup plus compliqué d'y aller. Les budgets sont pas du tout les mêmes. Après, la récolte est un peu plus simple. Et surtout, c'est des météorites qui sont beaucoup moins rouillées, qui sont beaucoup plus fraîches et donc, pour certains types d'études, plus intéressantes. Alors pour reconnaître les météorites, il n'y a pas de règle absolue parce qu'il y a des météorites qui ressemblent à tout, enfin, entre une météorite lunaire qui est un basalte et une météorite de fer qui est un morceau de noyau d'un gros astéroïde et une chondrite qui sont ces météorites très primitives. C'est trois types de pierres qui n'ont rien en commun, donc c'est difficile de donner. Souvent on me dit alors ça ressemble à quoi? Il n'y a pas une réponse unique, quoi. C'est vraiment, il y a plein de types de météorites. Il y en a de toutes les couleurs, il y en a un peu toutes les formes. Alors,
faut un œil aguerri.
Voilà, ce qu'il faut surtout, plus que de savoir reconnaître la météorite, c'est il faut aussi savoir reconnaître les roches du local. Quand on va en Atacama, il y a des andésites, il y a des granites. Enfin voilà, il faut connaître sa géologie locale pour voir tout ce qui est différent et qui vient d'ailleurs.
Procéder par élimination finalement.
Voilà, donc il faut passer du temps à se faire l'œil sur les en fonction des géologies locales.
Alors donc il y a ces expéditions qui permettent de récupérer des météorites en abondance, hein, une centaine en quelques mois.
Ouais, et puis là pour par exemple au Chili, fréquemment, j'y vais avec des groupes d'une dizaine de personnes, on peut trouver 500-600 météorites en 2 semaines.
Oui, vous y allez régulièrement au Chili?
Alors, je suis allé plusieurs fois, petite dizaine de fois peut-être depuis 2007, parce que c'est beaucoup plus facile à organiser, la logistique est beaucoup plus simple.
Mais 600 météorites en une semaine.
Voilà, donc c'est quelques météorites par jour, par personne. Donc effectivement, au final, ça fait plus de météorites qu'à l'Antarctique, pour un budget qui est une petite fraction de ce que ça coûte d'aller à l'Antarctique. Mais c'est des météorites qui sont beaucoup plus rouillées aussi. Il y a certains types de météorites qu'on a du mal à trouver dans les déserts, comme au Chili, qui sont remplis de roches volcaniques. Donc toutes les météorites qui sont des roches volcaniques, par les météorites lunaires, météorites martiennes, c'est très difficile de les distinguer des roches locales, donc au final on n'en trouve pas. Donc, voilà, en Antarctique, il y a des météorites beaucoup plus rares qui ont été trouvées, des météorites qui ressemblent à rien, quoi, en quelque sorte, mais qui ont été trouvées parce que elles étaient toutes seules posées sur la glace, et donc les gens ont pu les reconnaître.
Elles attendaient que ça, d'être trouvées.
Elles attendaient ça, voilà, c'est une rencontre aussi, d'aller cueillir des météorites. C'est un des aspects un peu émouvants de la chose. Quand on trouve une météorite, voilà, elle est tombée, elle a fait tout ce voyage dans l'espace, passé des millions d'années à tourner autour du Soleil avant de percuter la Terre. Et ça fait des milliers ou des dizaines, voire des centaines de milliers d'années qu'elle est là sur Terre, et puis on tombe dessus. Il y a une rencontre quelque part avec le caillou qui est sympathique.
Et s'il en est un groupe qui a trouvé des météorites, ce sont les 6 lycéens et lycéennes qui sont partis en avril 2017 en expédition dans le désert de l'Atacama au Chili. Une aventure dont le Labo des Savoirs était partenaire et que nous avions suivi à l'époque. Retrouvez Philippe Guillet, directeur du Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes Métropole, ainsi que Mathis Pinceloup et Maya Salier, tous deux lycéens et lycéennes qui faisaient partie de l'expédition. Le tout au micro d'Agathe Petit, un extrait de l'émission Expédition Atacama 2017, récit et découverte entre ciel et terre, à retrouver au Labo des Savoirs.
Alors Mathis, c'est toi qui as trouvé la première météorite, c'est bien ça?
J'ai trouvé la première météorite dans tous les jeunes. Luc et Jim avaient déjà trouvé les leurs.
On parle de vous, les plus jeunes explorateurs. Au bout de 5 minutes, si on en croit ce que vous nous avez raconté sur le blog, comment ça s'est passé?
Bah ouais, on est descendu donc des 4x4 et commence à marcher. Et là, dès le 5 minutes de marche en ligne droite, quelque chose, une tache noire à quoi une dizaine de mètres de moi, et une tache noire dans un sol vraiment plus clair. Donc j'ai pu m'approcher, j'ai regardé, et là tout de suite on voit qu'il y a une différence. Enfin, ça n'a rien à faire là, quoi.
Et donc tu t'es dit, il y a une tache noire, c'est forcément une météorite, ou est-ce que tu y allais un petit peu
Au départ, on était tous pas très rassurés, mais...
Pourquoi ?
Bah, on avait vu, déjà, on avait passé une après-midi entière à chercher et on n'avait rien trouvé. Donc là, on était assez proche donc, de la zone du jour d'avant. Donc pour nous, il n'y avait pas encore grand-chose. Et là, bah, quand voilà, je l'ai vu, je l'ai soulevé. Et là, tout de suite, au poids, on sait que bah, ça ne vient pas de chez nous, quoi.
Maya, j'imagine que toi aussi, tu as trouvé des morceaux de météorites. Qu'est-ce que ça fait de tenir entre ses mains un bout de ciel, finalement ?
Déjà, on est super contents parce qu'au bout de 3 heures de marche, on commence à désespérer. On se dit, oh là là,
c'est la récompense.
J'ai pas l'œil, donc déjà, c'est une récompense. Et ensuite, quand on tient le morceau de pierre dans la main, on se dit, c'est impressionnant, ça vient de l'espace. C'est quand même, je considère que c'est de la chance de toucher ce caillou.
Alors Mathis nous disait, j'ai repéré un caillou noir et j'ai tout de suite su que ça avait rien à faire là. En dehors de la couleur, à quoi est-ce qu'on reconnaît une météorite ?
Alors, on la connaît effectivement à son aspect rouillé, hein. Ça c'est vraiment la première des choses. Et on a assez vite compris qu'entre des roches plutôt foncées et puis cette couleur rouille très très particulière, la première chose. La deuxième chose, c'est effectivement une densité, hein. C'est des roches qui sont denses. Il n'y a pas de petites alvéoles, il n'y a pas de petits... je veux dire, c'est vraiment un matériau très simple avec des formes relativement arrondies. Alors, pas toujours, mais souvent arrondies, bah, liées effectivement à la chute. Quelquefois, on a la chance d'avoir cette croûte de fusion, hein, où on voit très très bien que bah, autour de l'objet, la roche, le composant, la roche finalement a fondu. Et puis après, bah, évidemment, un petit coup de papier de verre pour gratter la surface et faire apparaître le fer, parce qu'il y a beaucoup de fer dans ces météorites là et voilà. Et puis bah on se trompe quand même quelquefois, évidemment. Moi j'étais content à un moment, ah ouais, j'ai trouvé super, puis bah évidemment je montre ça à Luc qui me dit non, allez hop, poup, tous les rêves tout d'un coup tombent, mais c'est pas très grave, c'est la chose. L'avant-dernier jour aussi, d'avoir collecté finalement une météorite, puis je me suis dit, oh bah non, c'est pas ça, bon allez hop, je la balance. Et puis j'arrive avec Luc, et Jonathan, qui faisait partie de l'expédition, vient lui aussi avec le même type de cailloux dans les mains, et qui dit, ah bah si, c'est une belle météorite. Donc j'avais balancé une météorite que j'ai jamais retrouvée après, mais ça fait partie de ce qui va me rester dans la tête pendant longtemps, en me disant, je sais vers où elle est tombée, un jour peut-être que j'irai la chercher, mais c'est pas très grave.
Pour une deuxième expédition à
Oui,
Atacama.
Ou pour les générations futures, de toute façon je sais que dans 10 000 ans, 20 000 ans, elle sera toujours là-bas, quoi.
Une expédition unique, accompagnée par le Muséum d'Histoire Naturelle et son équipe, qui a permis de ramener des échantillons ainsi que de prospecter de nouvelles zones d'impact dans le désert de l'Atacama. Une aventure scientifique donc, mais pas que.
Ouais, c'était une expédition scientifique, mais plus que ça aussi, c'était une expédition scientifique de groupe. On a vraiment vécu quelque chose en 2 semaines, on était liés, on était tout le temps ensemble, on a pu découvrir des choses ensemble, on était tout le temps. Franchement, ouais, c'était plus que ça, c'est vraiment un truc qui va rester dans notre tête pour toujours, je pense.
Maya.
Et aussi, au-delà de l'expédition scientifique, c'est aussi être au contact de la nature. Vraiment, là, on était pendant 2 semaines immergés au bout du monde, tout seul. Ce qui est assez impressionnant aussi, c'est la multiplicité des couleurs du ciel aussi dans le désert, par exemple, pendant tous les levers de soleil et les couchers de soleil. Et quand on est tous là, en train de prendre le petit déjeuner ensemble et qu'on voit ce spectacle, on est... On est tous ébahis et après on commence une super journée, on va chercher des météorites, regorger d'énergie. Et oui, c'est vraiment une expérience scientifique, mais plus humaine que scientifique. C'est ça qui est resté marqué à mon goût.
Bienvenue au Labo des Savoirs. Attention, recherche en cours.
Vous vous souvenez de la première météorite que vous avez trouvée, vous ?
Et malheureusement, non. J'en ai trouvé beaucoup, alors j'ai oublié. Je me souviens de certaines.
Ou d'une émotion particulière.
Oui, il y a certaines météorites dont on se souvient précisément qu'on les a trouvées. Mais c'est un peu pareil avec les champignons. Enfin, moi, j'aime bien cueillir les champignons aussi. Il y a certains champignons, on s'en rappelle, parce que, ben, je sais pas, il était joli, il était bien placé, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas trouvé. Enfin, voilà, ça dépend des... Donc, je me rappelle très bien de certaines météorites, de comment je les ai vues, d'où je les ai vues, la forme qu'elles avaient, etc. Mais la première, je ne m'en rappelle pas, non.
Il y a aussi des météorites qui tombent à notre latitude. Mais alors là, c'est une autre histoire pour les trouver. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a l'érosion. Enfin, c'est pas un désert, donc c'est plus difficile. Mais en 2016, il y a un réseau qui a été lancé qui s'appelle Fripon. Alors, je vais essayer de le dire avec mon accent français. Donc, Fireball Recovery Interplanetary Observation Network. Donc, le réseau de recherche de bolides et de matières interplanétaires. Alors, en quoi ça consiste, ce programme ?
Alors, tout à fait. Il en tombe aussi à une latitude des météorites. Et comme je vous l'ai dit, il en tombe autant ici que dans le désert d'Atacama. Enfin, il en tombe un tout petit peu plus à basse latitude, mais c'est de l'ordre du pourcent, la différence. Donc, on va dire qu'il en tombe partout pareil. Mais effectivement, ici, il ne se conserve pas à la surface. Donc, l'idée du réseau Fripon, c'est de les voir tomber et d'aller les chercher là où elles sont tombées. Alors, les voir tomber au 19e siècle, il y avait déjà, le territoire était beaucoup mieux occupé qu'actuellement, enfin beaucoup mieux, je veux dire que c'était, la population était répartie de manière plus homogène, et donc les gens voyaient plus souvent tomber les météorites. Donc au 19e siècle, en France, je crois que c'est 65 météorites qui ont été récupérées parce que les gens les ont vues tomber, ou alors ils sont allés le lendemain à l'open de terre, ils ont vu un caillou, ils l'ont ramassé. Au 20e siècle, c'est 9 météorites, je crois. Et au 21e siècle, on doit être à 2 ou 1. Bon. Enfin, mais l'ordre de grandeur, c'est ça. Et c'est pas parce qu'il tombe moins de météorites, hein, c'est vraiment parce qu'elles tombent et puis personne ne les voit tomber, elles disparaissent dans des forêts. Voilà. Et donc l'idée de ce programme Fripon, c'était en quelque sorte, puisqu'on a plein de zones du territoire, on n'a personne pour regarder le ciel, d'avoir des caméras qui font ce travail-là, qui détectent le phénomène lumineux qui est associé à la chute d'une météorite et qui recalcule l'orbite et le point de chute de la météorite quand il y a une météorite. Il faut voir que la plupart du temps, quand on a un phénomène lumineux, donc un météore, il n'y a pas de météorite parce que le caillou a été entièrement détruit avant de toucher le sol. Mais on a certains moyens de savoir qu'il y a des météorites qui a pu tomber si la trajectoire lumineuse descend assez bas en altitude, par exemple. Et donc, dans ce cas-là, il y a un calcul qui est fait et qui prédit la zone de chute de la météorite. Et après, on peut aller la chercher dans cette zone de chute. Alors, je sens que la question suivante, ça va être, alors, vous avez trouvé beaucoup de météorites ? La réponse est non, on n'a pas encore trouvé en France. Alors ce réseau, il a essaimé à l'étranger aussi, en particulier en Italie. L'Italie est très très bien couverte. En France, il y a 100 caméras. En Italie aussi, tout le réseau est couvert. En fait, il suffit, tout le territoire est couvert. L'idée, c'est d'avoir une caméra tous les 100 km sous forme de grille, puisque c'est l'altitude à laquelle le phénomène lumineux apparaît. Donc voilà, c'est pas la peine d'avoir un maillage qui soit meilleur que ça. Par contre, voilà, c'est le maillage qu'il faut pour pouvoir voir la même chute avec plusieurs caméras, ce qui permet de calculer l'orbite. Donc ça a essaimé en Angleterre, en Italie, et justement, il y a une météorite qui a été trouvée en Angleterre avec contribution de ce réseau, et une qui a été trouvée en Italie avec contribution de ce réseau. Italie, c'était 2020, Angleterre, 2021, alors on espère la France pour 2022.
Voilà, la France 2022, ça devrait être logique.
On a déjà eu des chutes de météorites avérées détectées avec ce réseau en France, mais on n'a pas trouvé la météorite, ou alors elle est tombée juste dans la mer. Récemment, il y en a une qui est, le mois dernier, il y a une chute qui a été détectée en Suisse, elle est tombée, pas de chance, sur un glacier. Il n'y a plus beaucoup de glaciers dans les Alpes, et là, elle est tombée juste sur la langue terminale d'un glacier, donc impossible d'aller la chercher aussi. Bref, voilà, c'est pas des terrains très favorables pour chercher la France, et même si on arrive à déterminer une zone de chute, si c'est dans une forêt, par exemple, il y a beaucoup de forêts en France, on va pas trouver la météorite, parce qu'on parle de cailloux qui sont... Déjà, la taille d'un pamplemousse, c'est une grosse météorite. Et la zone de chute qu'on peut calculer, elle est de l'ordre de plusieurs kilomètres carrés en général. Donc, trouver un pamplemousse noir dans une forêt, sur une zone de plusieurs kilomètres carrés, c'est tout simplement impossible.
Dans ces cas-là, quand on a réussi à calculer la trajectoire, qu'on sait à peu près où c'est, est-ce qu'on fait appel à la population locale ou est-ce qu'on y va tout seul pour chercher
cette
météorite ?
Non, l'idée du projet, c'était d'impliquer le grand public, voilà, de former à savoir reconnaître une météorite. En fait, ce projet Fripon, il est adossé à un projet qui est beaucoup plus gros, en fait, de sciences participatives, qui s'appelle Vigiciel, qui est piloté par le Muséum d'Histoire Naturelle à Paris. Et donc l'idée, c'était vraiment aussi d'avoir des relais régionaux et d'aller chercher avec le grand public. Là, récemment, on a eu une chute de météorite en juillet dernier dans le Gard, à côté de Vauvert. Et on a organisé ça là, avec mon laboratoire et un laboratoire de Marseille. On était presque une centaine de personnes à aller chercher la météorite sur deux jours. On l'a pas trouvé. Pourtant, c'était une zone assez facile dans les vignes. Enfin bon, il n'y avait pas de végétation, mais on n'a pas trouvé la météorite. Il y a plein de bonnes raisons qui font qu'on peut ne pas la trouver. Voilà, alors on va peut-être me dire, oui, alors ben, ce réseau, finalement, ça fait... Bon, en fait, le réseau, il tourne à plein régime depuis 2 ans, on va dire. Vous ne trouvez pas de météorite, c'est pas très intéressant. Bon, en fait, il n'y a pas que ça. L'aspect trouver la météorite, c'est vrai que c'est sympathique. Mais il y a tout le calcul des orbites. Voilà, quand on a 1200 orbites par an qui sont calculées, donc des phénomènes qui sont vus par plusieurs caméras, où on peut reconstituer l'orbite. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a... Alors, ça va intéresser plus les astronomes. C'est-à-dire d'où viennent ces corps qui percutent la Terre. Hein, ça permet de savoir ça. Quelle est la vitesse d'arrivée, quelle est l'inclinaison par rapport à... Enfin, voilà, tous ces paramètres, disons, qui sont plus du domaine de l'astronomie, on les a avec ce réseau. Alors après, effectivement, si on a à la fois la météorite et l'orbite, on peut discuter tel type de météorite, ils viennent de telle zone dans le système solaire, et ça fait vraiment une connexion entre les gens qui travaillent sur les cailloux, comme moi, et les astronomes. L'intérêt premier, c'est pas d'aller trouver la météorite, parce qu'on sait très bien qu'on aura du mal en France à en trouver beaucoup.
Mais moi, je remarque aussi que vous dites tout à l'heure qu'il y avait une centaine de personnes qui vous aidaient à chercher des météorites. On parlait de Vigiciel, qui est donc un projet de science participative. Est-ce que vraiment les gens sont curieux de ces thématiques-là, sont intéressés par les météorites, et est-ce que c'est pas aussi un moyen de parler de ces sujets scientifiques avec la population?
Ouais, exactement. Quand on a organisé ces recherches-là, bon, déjà, on va expliquer aux gens ce qu'est une météorite, à quoi ça ressemble. On amène une météorite le matin avant de partir pour que les gens voient ce que c'est, et puis ils posent des questions. On informe aussi les populations locales en leur distribuant des tracts en disant il y a une météorite qui est tombée dans le coin, si vous voyez quelque chose, appelez-nous. Et ça crée un dialogue qui est effectivement aussi intéressant que le fait de trouver la météorite elle-même. C'est que voilà, on diffuse la connaissance et on voit que les gens sont curieux. Ils posent plein de questions aussi sur la géologie, parce qu'on amène des gens qui ne sont pas géologues. Donc voilà, on fait cette partie-là aussi de notre travail qui consiste à diffuser les connaissances. Donc ça, c'est une partie essentielle du projet, hein, l'aspect grand public. Et puis il y a ce côté chasse au trésor aussi. Ouais, les gens viennent avec leurs enfants. Il y a des gens qui sont pas forcément... voilà, le fait qu'on trouve pas la météorite, des fois aussi, je me demande si c'est pas parce qu'on a des gens qui sont pas forcément concentrés toute la journée. Parce que c'est pas évident de marcher toute une journée en regardant par terre, en cherchant un caillou qui peut faire la taille de... Je parlais de pamplemousse, mais la plupart des météorites, c'est la taille d'une noisette. Hein, donc, faut vraiment aimer ça. Hein. Souvent, les gens me disent « Ah ouais, j'aimerais bien partir à Atacama 15 jours chercher des météorites. » Mais la plupart des gens, au bout de 2 heures à regarder par terre sans trouver de météorite, ils se diraient « Bon, mais c'est... ça va, j'ai compris. » Voilà, le grand public, il vient, il participe. Je suis pas sûr qu'il soit tout le temps à 100% dans le truc, donc, mais c'est pas grave. C'est l'aspect diffusion des connaissances, effectivement, c'est une des grosses parties du projet aussi.
Vous partez à la recherche de ces météorites en regardant par terre pendant des heures. Est-ce que vous êtes tombé dans les météorites avant de vous lancer dans une carrière scientifique, ou est-ce que vous êtes tombé dedans après? Dans quel sens ça s'est fait?
Ouais, alors ça s'est fait après. Hein. Je suis venu à la science, je faisais de la, après mes études d'ingénieur, j'ai fait une thèse en géologie, donc c'était de la géodynamique tectonique des plaques avec des méthodes magnétiques. Et c'est ces méthodes magnétiques qui, petit à petit, m'ont conduit aux météorites par le hasard des rencontres. Et donc j'ai commencé à travailler sur les météorites en 2003. Et j'avais jamais vu une météorite avant ça, quoi. Donc c'est pas du tout une passion d'enfance où je connaissais rien du tout. Ça s'est fait par le hasard, puis ça m'a plu. Maintenant c'est l'essentiel de mon activité. C'est pas dit que dans 10 ans je fasse autre chose et que je laisse tomber les météorites. Donc par contre les champignons, non, depuis tout petit, ça c'est quelque chose qui m'a toujours plu et que je continue à pratiquer. Bon, il y a un côté naturaliste, hein, aux sciences de la Terre et de l'univers, hein, qui, quand je pars chercher des météorites, ben, je regarde aussi, bon, alors les plantes, il n'y en a pas beaucoup, mais par exemple, en Antarctique, il y avait toute une faune qui était intéressante, puis la géographie, enfin, voilà, il faut aimer quand même cet côté naturaliste pour partir sur le terrain et ouvrir les yeux et puis chercher des choses intéressantes. Quoi,
sortir du labo et aller vraiment sur place, quoi.
Voilà, tout à fait, ça fait partie de la motivation aussi de vous parliez d'expédition tout à l'heure, oui, d'aller voir ce qu'il y a dans des endroits où personne n'est allé voir, ou alors où il y a des gens qui sont allés mais qui ont pas regardé les mêmes choses, tout simplement. Ben, ce fait d'ouvrir les yeux et puis de regarder, voilà, de partir vers l'inconnu quelque part, c'est une des définitions de la recherche aussi. Enfin, dans le mot recherche, il y a bien, ben, ça veut dire ce que ça veut dire. On va chercher des choses qui ont pas été trouvées avant. Et donc, ben, c'est une des motivations derrière ce type d'expédition. Hein.
Et c'est déjà la fin de cette émission. Merci à Jérôme Gatacheka d'avoir répondu à nos questions et au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes d'avoir permis cette rencontre. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions et nos podcasts sur le www.labodesavoir.fr ou sur votre application de podcast préférée. Suivez nos réseaux sociaux pour toutes nos actualités et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
Radio G. 101.5 FM. Me out, listening to the music.